Donc pour ce séminaire, qui est celui aussi de l'axe enjeux technologiques et environnementaux du laboratoire, j'avais envisagé d'inviter donc aujourd'hui Sophie Lefèze, qui a fait son apparition dans, on va dire, l'environnement du CEREV il y a un an à peu près.
Oui, un peu moins même.
Un peu moins d'un an. Voilà, pour des raisons d'ailleurs très universitaires, et puis un CV est passé... un curriculum avec des travaux sur la technique, la défense et des domaines qui sont finalement assez peu étudiés par les sciences humaines pour des raisons aussi évidentes et qui sont tenues au secret et puis qui n'attirent pas forcément spécifiquement immédiatement les sociologues ou les anthropologues, plutôt les techniciens, les informaticiens. Et donc j'avais trouvé intéressant de vous proposer d'entendre Sophie aujourd'hui, qui présentera un peu l'ensemble de son travail, hein, c'est-à-dire, si je reprends un peu la quête de supériorité technique dans le domaine militaire, motivation, orientation technique et durabilité, c'est ton sujet de thèse,
oui.
Peu ou prou.
Oui, oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est une présentation aussi, normalement pour les collègues qui sont ou qui devraient être là, voilà, de chercheurs qui arrivent dans le giron du laboratoire. Et c'est l'occasion aujourd'hui de découvrir véritablement, tu l'avais fait déjà dans une journée de vie de laboratoire assez brièvement, mais là de se donner le temps un petit peu d'entrer dans le contenu de ce que serait donc une recherche à caractère socio-anthropologique liée à cet objet. Donc tu as étudié au CEPCOPRA, le laboratoire d'anthropologie des techniques de Paris 1, de la Sorbonne, auprès d'Alain Gras.
Non, parce qu'il partait en retraite peu après, donc il n'a pas pu être mon directeur de thèse, mais je l'avais sollicité initialement. Mais c'est la même équipe.
Qui consiste donc à penser la technique comme un enjeu et un objet à la fois historique et culturel. Voilà, donc nous donnons une heure et quart. Sophie, nous t'écoutons.
Donc merci pour cette présentation. Effectivement, donc ça c'est mon travail de thèse en résumé, version un peu remaniée. Je me suis plutôt appuyée sur le plan que j'ai utilisé dans mon livre en fait. D'ailleurs, j'en ai mis des exemplaires, mais on verra ça après. Donc déjà, alors, c'est vrai que je travaille sur le domaine militaire. Ça faisait longtemps que je travaillais dessus avant de faire une thèse. Donc je voudrais vous en dire peut-être un petit peu quelques mots pour expliquer comment je suis arrivée à travailler là-dessus, parce que c'est une question que j'ai très souvent. C'est mais comment ça se fait qu'une personne comme vous travaille sur des questions de défense? C'est la question classique. Alors déjà parce que ça m'intéresse pour commencer, et en plus donc parce qu'il y avait quelques observations que j'ai faites à cette époque-là qui m'ont amené petit à petit, sans vraiment que je le fasse exprès, si je peux le dire ainsi, à transformer un intérêt en sujet de thèse. Alors, donc à cette époque-là, je travaillais dans le conseil. Et ce qui me gêne un petit peu dans le conseil, c'est qu'on nous demandait de faire des études sur 6 mois, 9 mois. Et donc au bout de 2 mois, il fallait déjà qu'on présente des résultats à un client qui généralement connaissait le sujet bien mieux que nous, puisqu'il était là depuis très longtemps, et nous, on démarrait sur ce thème-là, et je ne me sentais pas forcément légitime pour commencer à lui donner des éléments d'information. Donc ça, c'était une première gêne que j'avais. Et puis, comme le délai était très court, je travaillais en source secondaire, et ça me gênait aussi, parce que des fois, je trouvais qu'il y avait des rapports dont je ne partageais pas les résultats. Je trouvais un petit peu bizarre qu'ils aillent dans ce sens-là. Moi, j'aurais plutôt pensé que ça allait dans un autre sens, et j'aurais aimé avoir le temps de faire moi-même, en fait, mon travail de recherche et de collecte des données. Donc j'ai profité des conséquences de la crise économique de 2008, donc chômage, hein, pas d'emploi, pas d'embauche, pour travailler sur un sujet qui m'intéressait, sur lequel j'avais commencé à travailler dans un cadre associatif. Donc dans le cadre de cette association-là, donc je m'occupais d'un comité qui s'appelait Armée du Futur, donc c'est assez vaste, hein, Armée du Futur, ça s'appelle sur l'organisation, l'équipement, plein de choses, et on travaillait sur la contre-insurrection. Alors comme vous n'êtes peut-être pas très familier de ce que c'est que l'insurrection et la contre-insurrection, pour faire très simple, l'insurrection c'est un peuple qui se soulève contre le pouvoir légitime en place. Et donc la contre-insurrection c'est comment est-ce que l'armée qui sert le pouvoir légitime en place va lutter contre ce peuple en armes. Et donc c'est ce qui s'est passé en Afghanistan en Irak, pour faire les choses très simplement. Et donc on s'intéressait aux techniques de contre-insurrection, et moi plus particulièrement, je me suis intéressée au matériel qui était employé. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, on parlait beaucoup des IED, donc c'est un acronyme anglais, en français c'est EEI, engin explosif improvisé. C'est des bombes artisanales, hein, pour dire les choses très simplement. Donc on utilise des acronymes pour décrire des choses qui sont en fait très anciennes. Hein, donc ça, c'est un autre sujet d'étude. Et donc ce qui m'intéressait avec ces IED, c'est que c'était la première cause de mortalité pour les Alliés. Et pourtant, on se dit, bah, les bombes artisanales, c'est quand même un vieux truc, on connaît ça. Et comment ça se fait que des objets avec 3 francs 6 sous, donc là, il y a la planche première, je vous ai mis quelques photos des engins explosifs improvisés, donc avec, vous voyez, une bouteille de café, les détonateurs, ça peut être de l'engrais, des réveils, des téléphones portables, donc vraiment ce qu'on peut trouver sous la main. Ils arrivaient à être la première cause de mortalité pour les armées les plus riches de la planète, hein, donc les Américains, les Britanniques, nous. Il y avait quand même quelque chose que je trouvais un petit peu bizarre. Et donc, surtout, ces bombes-là faisaient exploser des véhicules. Donc ça, c'est la planche d'après. Je vous ai mis aussi des photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc, première cause de mortalité. Ça crée aussi des traumatismes crâniens. Et donc, pour lutter contre les IED, les Américains, mais nous aussi, on a mis en place ce qu'on appelle de contre-IED. C'était, je crois, 4 milliards de dollars... J'ai noté ça, voilà. Donc, c'est 4 milliards de dollars de budget en 2008, un peu plus de 2 milliards en 2013. Donc on dépense énormément d'argent contre des choses qui ne coûtent pas grand-chose. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Et puis ces matériels-là, je me suis dit quand même, il faut 10 à 20 ans pour qu'ils sortent. Ce qui veut dire qu'on y passe du temps quand même, hein, pour les concevoir. Je me suis dit, comment ça se fait que quand on passe du temps sur des matériels comme ça, qu'on met beaucoup d'argent parce que ça coûte quand même cher, ça puisse être mis en défaut comme ça aussi facilement, du moins quand on regarde un peu les choses comme ça. Et là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai aussi une planche après. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire le nombre de morts qui sont dues donc, aux EI en français. Donc c'était quelque chose de très important. Donc à partir 2008, contre IED, du coup, ça commence un petit peu à décroître. Et voilà, donc il y avait quand même plusieurs choses comme ça qui m'interpellaient. Et puis quand j'en parlais avec les militaires, ils me disaient, donc surtout pour les gens de l'armée de terre, moi ce que je veux c'est du rustique, quelque chose de simple. Il y en a un qui me dit un jour, moi ce que je demande c'est que le véhicule roule, que l'avion vole et que le bateau flotte. Hein. Voilà, donc c'est textuellement ce qu'il m'a dit, donc c'est vraiment quelque chose de basique. Et en même temps, donc à la sortie, on voit quelque chose qui coûte très cher. Je me suis dit, là, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a une espèce de boîte noire entre la demande au départ et puis le produit de sortie. Alors en plus, donc, le produit de sortie, je vous ai dit, il met quand même 20 ans pour sortir. Ça, c'est pour les gros matériels, hein, les avions, les chars, les bateaux. Sinon, ça peut être 10 ans, c'est quand même assez long. Pour une durée de vie de 40 ans d'ailleurs. Hein, donc c'est quand même assez long. Quand on commence, on doit avoir une vision sur 60 ans. Ça fait quand même un petit peu long. Donc on passe du temps et puis ça coûte très cher aussi. Donc ça, c'est ma planche après aussi. Je vous ai mis quelques indications de coûts. C'est que donc entre la génération d'avant et la génération d'après, donc ces 40 ans qui s'écoulent, hein, à peu près, on a quand même, alors pour aller vite aussi, 2 × 2 × 5 × 10 en termes de coûts. Donc c'est des ordres de grandeur parce que c'est compliqué d'avoir des chiffres. C'est aux inter, je vous expliquerai pourquoi méthodologiquement c'est un petit peu compliqué, mais ça nous donne déjà un ordre d'idée. Donc le budget de l'État entre deux générations, c'est pas x2, encore moins x5 et encore moins x10. Donc là je me suis dit, est-ce qu'on aura toujours les moyens finalement de s'acheter des matériels? Et en plus, vu l'utilité sur le terrain et comment ça se fait démolir très vite, j'avais vraiment plusieurs interrogations là. Je vous ai mis aussi le coût d'usage. Parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est pareil en fait, en coût d'usage aussi, pareil à la louche, x2, x10. Hein. Voilà, donc il faut quand même avoir ça, je vous ai dit, la durée de vie est quand même très longue, hein. Donc c'est pas juste à l'achat qu'on paye cher, c'est toute la vie. Donc il faut un sacré budget. Alors donc je me suis posé la question de pourquoi on fait des matériels qui coûtent si cher, pour qu'ils se fassent donc démolir assez facilement, et en tout cas que pour les protéger, on soit obligé de dépenser des milliards d'argent. Donc, même j'ai appris aussi. Voilà. Donc, on me dit, en fait, parce que les matériels sont très complexes techniquement, on leur met plein de choses en plus qu'il n'y avait pas avant. Bon, très bien. Donc, c'est pas juste d'ailleurs le véhicule qui roule, l'avion qui vole, voilà. En fait, quand on creuse un petit peu, la climatisation, c'est pas plus mal. Telle chose, c'est quand même pas mal. Le radar, l'optronique, tout ça, c'est très bien. Donc, il y a quand même une demande derrière. Et donc, pourquoi est-ce que c'est aussi complexe? On me dit, c'est pour avoir la supériorité technique. Donc, j'ai fait un petit peu l'enfant de 3 ans avec pourquoi. Donc, pourquoi on a besoin d'avoir cette supériorité technique? C'est un peu donc, le point de départ que j'avais. Et donc, j'ai fait des entretiens. Alors, peut-être aussi vous en parler un petit peu. Je divise mes groupes d'enquêtés en 4. Hein. Donc, j'ai les usagers d'un côté. Donc, les usagers, c'est les opérationnels en régiment, en base militaire, ceux qui manipulent vraiment le matériel. Après, j'ai les concepteurs. Donc, les concepteurs, j'ai en fait 3 paquets. Alors, pour vous expliquer aussi un peu comment ça marche, donc j'ai l'officier en état-major qui va parler au nom des usagers, qui va donc définir son besoin. On lui demande de le définir en termes de « je veux être capable de ». Il ne doit pas donner de solution technique, ça c'est dans les textes. Donc « je veux être capable de voir quelqu'un de nuit à 6 km, voilà, qui fasse telle taille, etc. etc. » Ensuite, il transmet sa demande aux ingénieurs, donc spécialisés, qui vont traduire son besoin, être capable de, en spécification technique. Ça, c'est la Direction Générale de l'Armement, donc la DGA. Là, on est toujours sur le chapeau ministère des Armées. Donc, premier bloc, état-major. Deuxième bloc, donc ingénieur de la DGA. Et l'ingénieur de la DGA va rédiger le cahier des charges et passer un appel d'offres auprès d'un industriel. Donc là, on passe dans le secteur privé, qui, lui, va être chargé de concevoir un objet qui répondent au cahier des charges. Une fois qu'il a fait cet objet-là, il le donne à l'ingénieur militaire qui regarde l'objet, le cahier des charges, il fait des essais. Est-ce que vraiment c'est capable, est-ce que cet objet peut rouler à telle vitesse sur tel type de sol? Oui, je le teste, ça marche, bon, très bien. Donc il fait ces essais-là donc, de qualification. S'il trouve que l'objet correspond bien à ce qui était marqué dans son cahier des charges, il valide, il le donne aux militaires, qui vont aussi le tester, bien sûr, pour voir si vraiment ils sont en mesure de faire ce qu'ils voulaient faire. Donc ça, c'est la chaîne de mes trois types de concepteurs. Donc je suis allée voir tous ces gens-là, et donc je leur ai demandé pourquoi vous faites des objets techniques qui sont donc complexes. Pourquoi est-ce qu'on recherche la supériorité technique? Et donc là, du côté des concepteurs, en règle générale, j'avais une réaction du type « Mais enfin, mademoiselle, mais c'est évident, la supériorité technique, c'est ce qui nous permet de gagner des guerres. » Vous êtes vraiment débile, hein. C'est un petit peu ça quand même, hein, que j'avais comme type de réaction quand je commençais mes entretiens. Puis à force de discuter, de creuser, on voit qu'en fait, il y a quand même d'autres choses derrière. Voilà, donc ça, c'est un peu le plan. Donc pourquoi est-ce qu'on recherche la supériorité technique? Le point de vue des concepteurs, des opérationnels, donc des usagers. Comment est-ce que cette quête-là se traduit dans la manière de concevoir les objets techniques, proprement dit? Derrière, on voit qu'en fait, il y a une volonté de maîtrise. On peut voir d'autres choses, mais moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Et donc, une petite interrogation qu'on aura sur la puissance qu'on développe dans ce type d'appréhension des choses. Alors, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Je vais passer beaucoup de temps ici, et puis de moins en moins de temps vers la fin. Voilà, donc surtout ne pas refaire ce que je vais faire. Merci. Donc, du côté des concepteurs, voilà donc la question, pourquoi est-ce que vous voulez la supériorité technique? Donc, ils me disaient toujours, c'est absolument donc nécessaire pour vaincre. Et j'avais beaucoup de phrases du type, de tout temps, depuis la préhistoire, David et Goliath, ça revenait très souvent. Le silex, hein, voilà, donc c'est celui qui jette le silex le plus loin qui gagne. Ensuite, ça sautait généralement jusqu'à l'époque des chars. Éventuellement, les armes à feu, mais quand même beaucoup les chars. Donc, celui qui tire plus loin, plus vite que l'autre. Étonnamment, donc, il y avait un trou dans le temps. Voilà, donc ça, c'était le discours que j'avais très, très souvent. Et puis, en fait, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, il y a quand même d'autres choses que simplement la supériorité technique pour vaincre, d'autant que donc, l'histoire ne corrobore pas les croyances de ces personnes-là pour qui c'est absolument nécessaire pour vaincre. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je vous donne quelques exemples de guerre. Il y a un travail fait par un Américain qui s'appelle Ivan Arrigintoft, qui a étudié les conflits sur le 19e et le 20e siècle, qui opposaient deux parties en présence où il y avait un écart de puissance de 1 à 10. Voilà, donc c'était 1 à 10 minimum. Et puis, il a fait des statistiques pour savoir dans combien de cas le faible remportait la bataille sur le fort. Si le faible se bat sur le terrain du fort, ce qui n'est généralement pas ce qu'il faut faire quand on est un petit peu intelligent, il gagne à peu près 26% des cas, je crois. Voilà. S'il ne se bat pas sur le terrain du fort, il gagne 2 fois sur 3. Voilà. Donc on est loin de l'idée de « c'est nécessaire pour vaincre ». C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, parmi les autres moteurs, en fait, on voit le besoin de protéger la vie de ses propres soldats, ce qui nécessite un peu plus de technicité que pour un matériel de base. On va avoir plus de systèmes de protection, de détection, de renseignement que pour faire la même mission que si on n'a pas cet impératif-là. Donc je protège la vie des miens, je protège la vie aussi des non-combattants. Donc là aussi, ça complexifie la réalisation de la même tâche. Je veux prendre l'autre de vitesse, je veux en savoir plus que l'autre. Et puis donc le qui peut le plus peut le moins. Donc ça, on va un petit peu les développer, pas tous, mais une partie d'entre eux. Merci pour la place. planche d'après. Voilà, donc ça, c'est le genre de discours, effectivement. Voilà, je voulais vous mettre quelques exemples de temps en temps. Donc, vous avez dans les textes officiels, donc ça, c'est l'exemple sur la page de gauche, et puis donc quelques exemples d'extraits d'entretien donc, sur la droite. Voilà, donc qui peut le plus, peut le moins, ça c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu. Donc là aussi, je vous ai mis deux extraits d'entretien. Donc un ancien directeur de programme, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait partie de la direction générale de l'armement, donc qui dirigeait des programmes d'armement, qui est en jeune retraité au moment où je l'interroge, et puis un industriel donc, qui fait des missiles. Voilà, donc en deux mots, donc, ce que me dit la personne de gauche, voilà, on est dans un conflit asymétrique, c'est-à-dire le rapport de force n'est pas le même, et puis on est face à un groupe armé étatique, face à un groupe non étatique. Donc là, c'est un cas pour lui qui est un petit peu particulier, mais on n'oublie pas donc, le conflit symétrique, une armée régulière, si vous voulez, face à une armée régulière. Donc, comme on n'oublie pas ça, et que qui peut le plus peut le moins, voilà, donc si je sais gagner face à un adversaire qui est comme moi, donc sous-entendu aussi fort que moi, je gagnerai face à un adversaire qui n'est pas une puissance étatique, sous-entendu plus faible que moi. Et donc à droite, donc là on parlait du char. Voilà, il me dit donc le char c'est la cible la plus difficile à voir, donc si je dois faire un missile, puisque j'ai pris comme étude de cas un système de missile, eh ben, je reste quand même basé sur un objectif type char, parce que si je perce le char, je percerai n'importe quoi d'autre. Ce qui n'est pas complètement vrai, puisque moi, le retour que j'ai eu de la part de fantassins qui utilisaient ce système de missiles anti-char pour fantassins débarqués, ils me disaient quand ils étaient en Afghanistan, il est arrivé quelquefois que le missile en fait, traverse la maison et explose en fait, après la maison. Parce que les maisons sont en terre, donc ça absorbe la puissance, l'énergie en fait, du missile qui arrive. Et puis le missile, comme il est fait pour les chars, en fait, ici, vous avez une couche de blindage. Donc, l'histoire a fait qu'on, petit à petit, on a mis donc, une couche de blindage pour protéger le char. Du coup, en face, le missile s'est adapté. Le missile, quand il arrive, il touche la couche de blindage. Il sait qu'il ne doit pas exploser à ce moment-là. Il faut qu'il traverse la couche de blindage et il explose au deuxième impact. Donc, quand il arrive sur une maison avec deux murs et qu'il ne voit pas forcément le premier mur, qui perçoit le deuxième, mais qu'on lui a dit « tu n'exploseras qu'au deuxième impact », il va exploser effectivement après la maison. Donc il peut le plus, il ne peut pas forcément le moins. Merci. Voilà, donc là, c'est donc je reviens sur mes histoires d'engins explosifs improvisés, donc les IED, mes bombes artisanales. Et donc là, je discute avec un ingénieur de l'armement qui m'explique que, donc justement, sur cette histoire de protection des véhicules, ils avaient bien anticipé en fait, les mines, mais donc les EEI, non. Et il me dit, ils sont moins performants qu'une mine, mais leur charge peut être plus forte. Alors là, je réagis, là, je ne comprends pas très bien. Vous me dites voilà, qu'on s'était protégé contre les mines et que les EEI sont moins performants. Donc, a priori, donc, qui peut le plus, peut le moins, ça aurait dû fonctionner. Il me fait, bah, en fait, ils sont moins sophistiqués que les mines, mais ils compensent parce qu'ils ont une charge qui est plus forte. Ce n'est pas la même chose. En fait, ça ne fonctionne pas pareil. Donc, du coup, on ne se protège pas de l'un comme on se protège de l'autre. Donc voilà, encore une fois, qui peut le plus, peut pas forcément le moins. Oui, alors là, une autre explication, donc pourquoi est-ce qu'on continue dans, malgré tout sur cette quête de supériorité technique, c'est qu'on va chercher donc le toujours mieux, c'est la course à la capacité. Alors un industriel, je sais que c'est un peu long, mais c'est difficile pour moi de le couper parce que je trouve que tout est intéressant. Donc il explique historiquement, donc on était dans une situation de conflit symétrique, donc si vous voulez, Deuxième Guerre mondiale en fait, à peu près. Donc c'est celui qui avait un armement donc 10% meilleur qui gagnait l'autre. Il dit donc maintenant c'est asymétrique, on n'est en fait plus dans la même logique. Il reconnaît qu'on n'est plus dans la même logique. Mais on continue donc de faire des armements complexes qui ressortent de cette même logique, mais on est face à des gens qui ne se passent pas du tout sur ce terrain-là. Il me dit, eux, ils n'en ont rien à faire d'avoir des trucs qui font 10% de mieux. Ce n'est pas ça. Ils contournent la difficulté. Et c'est vrai que nous, bah en fait, ce qu'on fait, ça n'a plus de sens. Et maintenant, personne ne fait l'impasse de dire que systématiquement, nos prochains adversaires auront le niveau d'armement des talibans, donc on va donc rester sur l'idée de conflit symétrique. Et donc, on va continuer de développer le même type de matériel. Alors, en face, vous avez donc un officier donc, en état-major qui, lui, ce qui est intéressant, on dit, voilà, il me dit, bah, en fait, voilà, on peut avoir des capacités supplémentaires. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on va s'en priver puisque c'est là, puisque c'est disponible. Il me dit, voilà, donc ça devient un petit peu une course à la capacité. Et donc, soit vous décidez que, parce que vous voulez être up to date, hein, vous êtes quasiment obligé de faire un peu cette course à la techno pour éviter d'être en retard par rapport à. Alors, il me dit, alors, par rapport à quoi et à qui? Alors là, c'est vrai que c'est une bonne question. Parce que, est-ce qu'on a besoin de se mesurer vis-à-vis d'un tel ou d'un tel? Donc, c'est un des rares qui a été aussi, aussi clair dans cette prise de conscience qu'il y a effectivement quelque chose qui ne ressort pas d'une, enfin, d'une stricte logique de préparation à un type de conflit. Voilà, donc on est effectivement dans cette course à la capacité parce que bah, y a un sens de l'évolution technique et donc on ne peut pas être en retard. Voilà, donc quand j'ai demandé donc, à cet ingénieur de la DGA qui me définisse la performance, il m'a dit bah, ce qui va plus vite, plus loin, plus haut, qui consomme mieux. Et ça m'a vraiment fait penser aux Jeux Olympiques, hein, voilà, plus haut, plus fort, plus loin, etc. On est vraiment dans cette logique-là du toujours plus. Voilà, donc d'ailleurs, ben, c'est ce qui est marqué ici. Donc, chercher des technologies de plus en plus élaborées. Donc, vous voyez que ce soit au niveau de l'ingénieur vraiment de formation ou au niveau du militaire, on est un peu dans la même logique. Et donc, je vous ai mis l'industriel, comme ça, vous en avez un de chaque au niveau des trois concepteurs, qui lui me prend vraiment l'image du Tour de France. Et donc, il faut qu'on soit dans le peloton de tête, parce que si nous, on ne continue pas d'avancer, les autres avancent, et donc, on va se retrouver en queue. Et ça, ce n'est pas possible. Et puis, donc, on emprunte exactement le même chemin, d'ailleurs, hein, de l'évolution technique avec le Tour de France. C'est ça, c'est vraiment le même type de circuit. On ne peut pas imaginer qu'on puisse faire des matériels différemment, qui ressortent d'une autre logique. Alors ça, c'est un schéma que je vous ai mis parce que je l'aime bien, mais c'est vrai que de loin, je pense qu'on ne voit pas très bien. Donc, c'est le sens du progrès. Donc, on a cette croyance que ça en fait un peu de thermomètre, m'a dit un jour une personne. Hein, voilà. Donc, il y a un seul sens de donc, circuit du Tour de France. Et puis, j'avance comme ça. Voilà, parce que si je n'avance pas, en fait, tout ce que je peux faire, c'est reculer. C'est un peu ce qu'on entendait il y a quelques années sur abandonner l'énergie nucléaire. On disait, oui, mais dans ces cas-là, vous retournez à la lampe à pétrole. On n'imagine pas d'autre chose. Voilà, on est vraiment sur la même ligne. Alors qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça marche plutôt comme la figure de droite où on peut faire... Ce n'est pas exactement des retours en arrière parce qu'on ne fait pas les choses de la même manière qu'avant, en fait. Hein. Donc, ça, on peut faire des pas de côté. Et ça, j'ai essayé un petit peu d'en parler avec des industriels. Et penser le pas de côté, c'est assez compliqué. Voilà. Alors, du coup, qu'en est-il pour les opérationnels? Donc, qu'est-ce qu'eux pensent de cette supériorité technique? Est-ce qu'ils trouvent que c'est bien, c'est nécessaire, c'est suffisant? Alors, eux, ils m'ont dit, oui, c'est vrai que c'est bien. Ça apporte un plus, ça aide pour gagner la bataille, mais pas forcément pour remporter la guerre, voilà, la victoire. Là, il y a un saut qui ne se fait pas. Donc, au plan tactique, oui, c'est bien. Le gain au niveau stratégique, il n'est pas systématique, il n'est pas automatique. Alors, la supériorité technique peut être aussi recherchée pour son côté symbolique. Ça, c'est un exemple que l'on m'a donné des pilotes de l'armée de l'air dans le transport, qui, quand ils ont vu arriver le CASA, qu'aujourd'hui en vieil appareil, on dit « ça, mais ça, c'est un truc trop petit, nous, on mérite un appareil plus gros quand même, hein, là, ça ne va pas du tout ». Donc il y a ce côté quand même « je mérite un truc plus gros, une voiture plus grosse que celle du voisin », si vous voulez, c'est un petit peu ça. Il y a aussi la croyance, mais il commence à y revenir. Mais bon, en théorie, un produit récent est censé être mieux qu'un produit ancien. Dans le civil, on se rend compte déjà que ça ne marche pas, mais dans le militaire, il commence aussi à se rendre compte que c'est vrai aussi. Ce n'est pas forcément meilleur qu'un produit ancien. L'idée aussi qu'il vaut mieux plus que pas assez. Avec cette phrase-là qu'on entend absolument partout, « oui, c'est utile, mais je ne sais pas si ça servira ». J'ai un ami qui est dans l'armée britannique qui m'a dit que la même phrase s'entend aussi chez eux, hein, donc c'est pas quelque chose de typiquement français. Voilà, donc ok pour la supériorité technique, effectivement c'est un atout. Cependant, on refuse d'en être dépendant avec cette autre phrase aussi très célèbre, on a confiance sans avoir confiance, qui s'entend absolument partout aussi. Donc ils utilisent un système type GPS, mais également la carte et la boussole, parce que quand même on sait jamais, ça peut ne pas fonctionner. Et donc tout est comme ça en fait. Donc ils ont la nouvelle méthode et l'ancienne méthode. Donc, en fait, ça leur complique un petit peu la formation. Et puis ces phrases-là aussi, donc là j'ai des extraits d'entretien à vous montrer aussi, c'est que ça ne change pas l'art de la guerre en fait, de toutes les façons. Peut-être celle d'après d'abord. Voilà. C'est vrai que celle-là, je l'aime bien. Donc ça, c'est un colonel qui m'explique de toutes les façons. Voilà, c'est toujours un homme qui est derrière et qui décide de ce qui doit être fait. On restera toujours sur des schémas qui sont millénaires. Il dit, voilà, pour la manœuvre, de toute façon, la manœuvre, c'est la manœuvre. Ça ne change pas. Par contre, on est un petit peu comme en peintre, il dit, voilà, la peinture, les outils, on les a à peu près, ça ne change pas vraiment, mais n'empêche qu'on ne fait pas le même style de peinture, même si les outils peuvent rester à peu près les mêmes. Voilà, il dit donc, la guerre, c'est pareil, même si les matériels évoluent, il y a quand même toujours cette place-là du chef qui est importante, un peu la part de créativité, de ressenti personnel et d'intuition qui est extrêmement importante. Donc lui, c'est un colonel d'infanterie. Bon, peut-être aussi que je précise pourquoi il parle comme ça. Peut-être revenir sur celle d'avant, oui. Du coup. Oui, voilà. Oui, parce que ça me paraissait intéressant. Vous avez deux points de vue qui sont un petit peu différents du côté des officiers. Donc celui-ci qui me dit, voilà, donc justement, l'importance de savoir. Donc la technologie, le high-tech, me permet d'en savoir plus que l'autre. Et une fois qu'on le sait, il dit, voilà, en plus, on demande des confirmations, on confirme toujours le renseignement, donc des drones, des satellites, matériel high-tech. Dès qu'on est sûr de la manœuvre ennemie, là, on ne réfléchit pas longtemps, on sait ce qu'on doit faire. Point de vue de notre officier, il me dit, voilà, donc en numérisant tous vos pions, donc vous savez exactement où sont vos éléments, vos unités, si vous voulez. Voilà, mais on n'a pas le même tableau pour les pions rouges, donc rouge, c'est les ennemis. Là, on ne peut connaître qu'une petite partie du dispositif ennemi. On n'a pas le même degré de connaissance. Et après, c'est le chef qui doit extrapoler à partir des informations qu'il a, donc anticiper, comprendre la psychologie intime de son adversaire pour savoir ce qu'il va faire. D'où la place de l'intuition et la place du tacticien. Et c'est pour ça que donc, la guerre restera un art, parce qu'il y a cette part-là vraiment très personnelle du stratège qui décide. Là, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Lui, il a autour de 30 ans, je dirais, à peu près. Lui, il est plus âgé, il a plutôt 50 ans. Voilà. Je pense que l'âge est important aussi pour comprendre pourquoi il n'y a pas tout à fait le même point de vue entre ces deux officiers. Voilà, donc là, vous avez donc le point de vue des concepteurs d'un côté, le point de vue des opérationnels de l'autre, et puis là, j'ai envie de dire, c'est le point de vue du chercheur sur le sujet. Alors, ce qu'on peut en dire sur pourquoi est-ce qu'on va rechercher cette supériorité technique, il y a le côté culture qui est à prendre en compte. Là, je me suis beaucoup appuyée sur Victor Davis Hanson, donc abrégé en VDH, qui est un historien américain qui a travaillé sur la manière de combattre chez les Occidentaux. Il voulait savoir pourquoi c'était aussi sanglant, en fait. Le titre de son livre, c'est « Carnage et culture », voilà, pour vous donner un petit peu une ambiance. Et donc, il explique dans ce livre-là qu'en Occident, il repart des Romains et des Grecs, hein, on va plutôt donc chercher une fin des hostilités qui est rapide et décisive, d'où le combat des hoplites grecs sur un terrain plat. On s'affronte, et puis celui qui reste debout, c'est celui qui a gagné. Voilà, je vous simplifie un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Au moins, c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, on est plutôt dans un choc frontal et on va chercher à détruire au maximum l'adversaire. Ce qui veut dire que dans l'armement que l'on va chercher, on va chercher une grande puissance dans le choc. Mais ce qu'il dit aussi, qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce qu'on a donc c'est pas parce qu'on a eu des armes à feu que les autres n'ont pas eu, par exemple, qu'on a pu remporter autant de guerres sur la planète. Il dit parce qu'il y a des cas où nos adversaires avaient aussi des armes à feu et ils ont perdu la bataille quand même. Donc c'est pas simplement le fait d'avoir le matériel là, c'est plein d'autres facteurs qui expliquent aussi le succès de l'Occident dans ces combats. Donc il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, donc le côté politique en fait aussi, il dit la motivation des citoyens, donc là il prend l'exemple des Grecs pour se battre, donc il y a quand même ce côté-là. Avoir une capacité scientifique de recherche qui est importante, avoir les moyens pour pouvoir développer l'industrie qui va permettre de fabriquer ces armements en quantité importante. Si vous avez une super arme, mais vous avez un seul exemplaire, vous n'allez pas faire grand-chose avec. Donc il y a un certain nombre de facteurs dans scientifiques, techniques, économiques et politiques qui expliquent aussi le succès des forces armées occidentales. Oui, peut-être tourner, puis ensuite je reviendrai ici. Voilà, donc là, je vous ai fait deux citations de Victor Davis Hanson. Voilà, donc sur le côté droit, vous avez un peu le résumé de ce que je viens de vous dire. Et sur le côté gauche, je vous l'ai mis aussi, parce que justement, comme on est dans cette culture de choc frontal, il explique que quand on n'est pas dans le choc frontal, on va traiter l'autre de lâche. Voilà, mais ce n'est pas forcément qu'il est lâche, c'est notre vision des choses dans notre culture de la guerre. Et nous, on ne se rend pas compte qu'on inflige des pertes en IT qui peuvent être vraiment très importantes, mais pour nous, c'est quelque chose de juste parce qu'on est dans ce choc frontal. celle d'avant, là, du coup, je vais revenir. Voilà. Donc, il y a ce côté culture qui me paraissait important pour expliquer ce choix de conception des matériels et donc la foi aussi dans un progrès qui est permanent. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le sens de l'évolution technique. Il y a une marche qui est inéluctable. Si on n'y va pas, on va se retrouver en retard par rapport aux autres. Donc, il faut qu'on avance pour ne pas qu'on recule. On ne fait que réagir, en fait, aux événements. Voilà. Alors, justement, donc, une fois qu'on a ce contexte-là, savoir comment les gens appréhendent les choses, comment est-ce que cette vision du besoin va se traduire dans la manière de concevoir les objets. Donc là, on a... Donc comment est-ce que j'évalue mon besoin? Donc j'ai un besoin d'avoir cette capacité supérieure par rapport à l'adversaire pour l'emporter. Là, je fais un petit retour en arrière aussi. Quand je vous disais... Mes interlocuteurs me disaient de tout temps, bon, en réalité, c'est historiquement situé. Alors, c'est compliqué de mettre une date parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain dans l'histoire. Moi, je remonte plutôt à partir du 18e siècle, mais après, bon, peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est pour moi, il y a quand même un point qui est important, c'est la Première Guerre mondiale, en fait. Première Guerre mondiale, parce que là, on est sur un équilibre des forces. Et ça posait vraiment problème aux personnes de l'époque, d'où le plus jamais ça. Parce que du coup, on stagne. Donc pour éviter de stagner comme ça pendant des années, de perdre énormément de monde pour rien, il faut qu'on ait ce petit plus qui va nous permettre de déstabiliser les choses et d'emporter la victoire, et de sortir de cette guerre-là. Donc il faut absolument ce 10% de plus. Si on pense à la Première Guerre mondiale, là, ça fait véritablement sens. Ça explose avec la Deuxième Guerre mondiale, avec les armes secrètes des uns, des autres. Les Japonais aussi avaient leur plan d'armes secrètes, d'ailleurs. Et puis, donc l'arme nucléaire aussi, qui est là, donc la puissance de plus par rapport aux autres. La guerre froide, et en fait, pour moi, c'est pas si vieux que ça. On pourrait presque le limiter au XXe siècle, en réalité. Où là, c'est vraiment très, très important. Donc, besoin de cette performance qui va me permettre d'être capable de faire ce que l'autre n'est pas capable de faire. L'approche en termes de capacité aussi, on la trouve en France sous l'influence des Américains. On a toujours tendance à faire comme les Américains en se disant « s'ils le font, c'est que c'est forcément bien ». Mais là, je vais pas revenir sur pourquoi les Américains sont arrivés là-dedans et pourquoi on a fait la même chose. Donc, on va chercher la capacité de faire quelque chose que l'autre n'a a priori pas. Et puis, donc, pour avoir cette performance-là, cette puissance-là, on va passer à l'approche système. Alors, l'approche système, moi, je l'explique beaucoup avec les petits rouages que je vous ai mis là. L'idée étant, si je veux avoir une grande puissance de sortie, si j'utilise une logique de type rouage, je vais accroître ma puissance de sortie. Ça, jusque-là, ça va. Donc, on va passer à cette approche-là. Alors, petit à petit. Avant, quand on faisait un hélicoptère, par exemple, on faisait la carcasse de l'hélicoptère, les sièges, le poste radio, les choses étaient faites séparément, je veux dire. Et puis après, on met les sièges dans l'avion, on met le poste dans l'hélicoptère, le poste radio dans l'hélicoptère, et puis ça marche, quoi. Et là, on s'est dit, donc si on est dans cette autre logique d'organisation système, il vaut mieux penser en fait tout dès le départ. Donc ça veut dire que quand on commence un matériel, ce que je vous disais au début, il faut pouvoir penser donc 60 ans à l'avance tout ce qu'il va faire, tout ce qu'on va lui demander de faire. Et on va lister donc toutes les capacités, toutes les fonctions qu'on va attendre de ce matériel-là. Et on va penser tout en même temps, ce qui fait que c'est plus compliqué à faire et ça prend plus de temps. Après la Deuxième Guerre mondiale, on avait des programmes qui duraient à peu près 7-8 ans, et puis ensuite on passe à 10, 12, 15, et maintenant c'est 20 ans à peu près, pour donner un ordre d'idée. Donc on va penser donc le besoin dans sa globalité et on va avoir donc au final une cohérence d'ensemble. Ce qui veut dire aussi, j'anticipe peut-être un petit peu sur après, que si vous voulez changer des choses, il faut que ce soit prévu dès le départ. Si vous voulez rajouter, un poste de communication, il faut que vous ayez une réserve de volume pour pouvoir insérer votre poste radio supplémentaire, par exemple, une réserve d'électricité, de puissance, pour pouvoir l'alimenter. Une question de masse aussi. Je vous ai dit, pour les chars, on rajoute du blindage. Il faut que la motorisation puisse être assez forte pour pouvoir mouvoir quelque chose qui va peser beaucoup plus lourd que ce qui était prévu au départ. Donc, ça vaut en fait d'anticiper beaucoup plus les choses initialement. Donc, concrètement, vous allez... l'électronique a beaucoup aidé pour penser aussi cette notion système. Donc, l'électronique, du coup, vous mettez en relation, justement, matériellement, vos différents équipements, avec un nœud donc, central qui va récupérer les informations de tout le monde. C'est le calculateur central. Là, je vous ai mis quelques dates pour vous donner donc, des idées. Donc, sur le Mirage, l'avion, vous l'avez à la fin des années 50. SNA, c'est sous-marin nucléaire d'attaque. Voilà, donc petit à petit, on va passer de l'arme au système d'armes. Donc, le vocabulaire ici est très important. Voilà. Et donc, si vous partez dans cette logique-là, donc d'ensemble organisé qui s'emboîte, eh bien, du coup, on peut penser un peu l'image du Lego que je vous ai mis là, en fait. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on peut entendre ce propos-là. Donc, on n'a qu'à jouer au mécano, puisqu'on va donc emboîter les différents éléments ensemble. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. Alors, l'idée d'emboîter aussi des éléments ensemble, c'est de se dire, bah, puisque j'ai cette mise en réseau, peut-être que ces briques-là qui s'emboîtent, je vais pouvoir les réutiliser après. Donc ça, c'est en deuxième étape. Ça se voit l'informatique avec la bibliothèque que vous avez. Voilà. Donc je vais avoir ma bibliothèque où je vais mettre mes différents programmes. Mais là, c'est un petit peu pareil. J'ai mes petites briques que je vais pouvoir réutiliser plus tard. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il faut que je les fasse de manière à avoir un interfaçage possible avec je ne sais pas quoi, mais avec quoi je vais les emboîter après. Donc le Lego, il a ce système d'interfaçage-là qui est prévu dès le départ. Là aussi, complexité supplémentaire en fait en amont de favoriser cet interfaçage futur. Cet industriel, lui, me dit, voilà, donc les architectes de la DGA, et puis donc nous aussi, les industriels, ça nous arrive de penser aussi cette pensée Lego. Alors, nous, en tant qu'industriels, on le fait pour que ça rentre dans le budget, pour gagner le marché. Parce que l'idée est de se dire, ben, en fait, ça ne va pas coûter très cher, puisque je vais réutiliser des briques qui existent déjà. Donc ça, c'est le discours de l'industriel. En face, il dit, oh, ben oui, c'est vrai, tu as raison, donc effectivement, c'est pas cher. Et donc, je gagne le marché. Voilà. Nous dit cet industriel, on prend des trucs et on les assemble. Voilà, du Lego, ce terme revient souvent, c'est tout à fait exact. Voilà, beaucoup de programmes d'armement aujourd'hui ont pour base de raisonnement le Lego. Le problème, c'est que ce n'est pas la réalité. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, il y a plein de rustines qui arrivent. Quand on raisonne simplement, bah, on oublie qu'en réalité, donc, ce n'est pas simple, et on fait des usines à gaz avec des Lego. Voilà, donc là, ça résume un petit peu ce que je vous disais. Voilà, quand je pense l'intégration, ben, du coup, je pense aussi le découpage en même temps et j'arrive à cette idée de tronc commun avec des kits. Donc la polyvalence qu'on a donc, aujourd'hui, elle est sur cette logique-là. Mon tronc commun, donc, c'est le même châssis, par exemple, pour les types de véhicules. Et puis après, je mets d'autres choses dessus. Donc là, j'ai mon véhicule poste de commandement. Là, j'ai mon véhicule sanitaire. Là, j'ai mon véhicule radio. Là, j'ai mon véhicule... Voilà. Mais j'ai la même base. Pour les avions, c'est pareil aussi. Le Rafale, c'est ça. J'ai le même avion de base. Et puis, si ça doit faire une mission de bombardement, bah, c'est le kit bombardement. S'il fait du combat RR, je lui mets le kit RR. Et j'ai comme ça mon adaptabilité, puisque je ne sais pas ce que sera le conflit de demain. Et je vais gagner cette adaptabilité par cette méthode-là, avec des briques, voilà, et mon tronc commun et mon kit. Sauf que l'intégration, voilà, ça ne marche pas aussi facilement que ça. Comme nous disait cet industriel, on a cette illusion que c'est simple, mais en réalité, donc, ce n'est pas si simple que ça. Si vous vous souvenez de ce que disaient Descartes et Condillac, c'est quand j'ai un problème qui est compliqué, je le découpe en petits problèmes plus simples, et je m'attaque petit problème par petit problème, et à la fin, bah, j'ai résolu mon gros problème. Donc on a toujours... Je vous en parle parce que c'est un peu la même démarche là. Donc j'ai quelque chose de compliqué, donc mon gros système d'armes, voire système de système aujourd'hui. Donc je ne peux pas l'avaler entre guillemets comme ça, je vais le découper en petits morceaux. Donc là j'ai la cabine, là j'ai les ailes, là j'ai etc., moteur, etc. Et puis bah, après, l'addition, bah, c'est la somme de tout ça. Je les juxtapose et j'ai mon système d'armes complet. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Quand on découpe quelque chose, on perd des choses. On perd le liant, en fait, ce qui liait au départ les différents éléments. On ne s'en rend pas compte quand on découpe, mais quand on remet les morceaux ensemble, il faut de la colle, quand même, à un moment donné, hein, si je peux prendre cet exemple de la colle. Donc, on se rend compte qu'on ne peut pas donc, découper la réalité sans perdre quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça peut être du savoir implicite, ça peut être du social, ça peut être justement donc, tout ce qui relève de l'interfaçage, de l'intégration, mais il y a quand même quelque chose qui est perdu. L'ergonomie se développe en fait très tardivement dans le militaire par rapport au civil. Mais on en a besoin justement parce que c'est lui qui va remettre ce liant-là. Donc ça se développe tardivement par rapport au civil parce qu'on était dans l'idée, bah, le militaire, de toute façon, il se servira de ce qu'il y a et puis c'est tout. Voilà. Dans le civil, vous n'êtes pas content, bah, vous achetez quelque chose d'autre. Le militaire, il n'a pas le choix. Donc même si ça ne le convient pas, ce n'est pas grave, il fera avec. Puis là, on se dit, bon, c'est quand même dommage parce qu'il y a du matériel qui ne sert pas, du coup, parce que quand vraiment c'est inadapté, parce qu'on a oublié quelque chose, c'est mis de côté, il faut quand même qu'il ait son équipement. Donc avec un petit peu de retard, on se dit, tiens, si on remettait un petit peu d'ergonomie. Donc on va s'y intéresser. Alors, le mot qui est très à la mode, c'est faire un matériel intuitif. Voilà, donc il faut que ce soit intuitif pour que le militaire puisse s'en servir très rapidement. L'autre raison aussi, c'est qu'ils ont donc de plus en plus de matériel dont ils ont besoin de se servir, donc ils ont beaucoup de formation, très peu de temps à l'arrivée. Donc il y a plusieurs militaires qui m'ont dit, en fait, je pars de formation en formation, et puis au bout de ma troisième formation, je reviens dans le régiment, on me dit, tiens, sers-toi du matériel 1, puisque tu as fait la formation. On me dit, moi, entre-temps, j'en ai vu 2 ou 3, j'ai fait d'autres choses, je ne sais plus trop comment ça marche, quoi. Donc on se dit, voilà, il faut quelque chose d'intuitif pour qu'ils puissent s'en servir. Donc l'ergonome vient là pour garder une usabilité au matériel, faire aussi le lien entre l'objet et son environnement d'usage, en fait la culture du milieu. Les industriels, les ingénieurs n'ont pas forcément cette culture du milieu, même les ingénieurs de la DGA, on pourra en reparler sur pourquoi si vous voulez, ça vous intéresse. Mais donc, on demande finalement à l'ergonomie de remettre un peu cette dimension culture aussi. Alors là, je vais aller vraiment très très vite sur l'automatisation, mais juste pour parler sur ce petit schéma-là. Donc toujours cette idée de rouage aussi, pour avoir ma puissance de sortie qui est importante. Je vous ai parlé de l'objet, mais l'objet tout seul, ça ne sert à rien. Il faut quand même quelqu'un qui s'en serve à un moment donné. Donc c'est pour ça que je vous ai mis aussi l'humain qui, du coup, vient faire partie de ce rouage-là aussi. Donc certains considèrent que l'homme est un système d'armes également. Voilà, donc c'est des choses que j'ai pu entendre. Donc on a besoin de penser encore l'ensemble. Seulement, autant je peux modéliser un objet technique, voilà, ça correspond à des lois physiques, tout ça, bon, je peux y arriver à peu près, mais alors l'humain dedans, là ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il y a des études pour modéliser le comportement humain, mais mettre en équation l'humain, ça marche quand même pas très très bien, donc ça devient perturbateur de l'ensemble, ce qui fait que l'automatisation, c'est quand même drôlement bien pour ça, ça permet d'évacuer l'homme dedans et d'avoir un système qui fonctionne vraiment comme c'était prévu, et avoir ma puissance de sortie à l'arrivée. Donc je vais aller aussi très très vite sur l'automatisation, je vais pas développer, il y a d'autres choses dont je pourrais en dire, mais donc moi ce qui va m'intéresser ici, c'est plutôt cette idée toujours d'avoir une grande puissance de sortie, et donc d'être sûr d'avoir cette puissance de sortie. Parce que donc, je veux avoir cette maîtrise-là, voilà, pour avoir mon assurance de puissance. Là aussi, je vais aller très très vite là-dessus, je pense que vous connaissez déjà, mais je voulais vous en parler parce que j'ai un extrait d'entretien après qui me paraissait important de vous dire. Donc on est dans cette idée science moderne, voilà, je découvre les lois de la nature est écrite en formule mathématique, et donc du coup, une fois que j'ai cette formule-là, ben, je peux reproduire l'événement, puis je peux prédire aussi ce qui va arriver. Si je prends ça, si je le lâche, je sais que ça va tomber parce qu'il y a la loi de gravité qui s'applique ici. Donc, je maîtrise un peu plus ce que je fais. Alors, si je peux maîtriser le monde de la nature, est-ce que je ne peux pas maîtriser aussi le monde social ? Donc, ça aussi, je pense que vous l'avez vu dans votre parcours. Donc, je ne vais pas aller là. Et je vais quand même donner donc, l'extrait d'entretien après parce que voilà cette réponse que j'ai eue quand je parlais de ma question des coûts croissants des équipements militaires. En disant, bon, quand même, c'est peut-être un petit souci. Et donc, ce militaire m'a dit, voilà, moi, je pense que les équipements n'échappent pas aux lois. Enfin, on est dans certaines organisations de société, de commerce et de production. On n'échappe pas aux lois du modèle général. Voilà. Donc, on voit à peu près les lois économiques. Et encore, on pourrait en discuter aussi. Ça repose quand même sur des postulats, non, l'économie. Mais donc là, pour l'organisation sociale, c'est pareil. Il y a des lois. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à décrire ce qui va se produire quand même. Donc, je vais revenir sur la planche d'avant. Donc je vais essayer donc de modéliser. Alors là, je vais vous parler du coût de soutien des matériels, puisque donc, sur cette question de coût qui, moi, m'intéressait particulièrement, donc je vous ai parlé au début des coûts d'achat qui étaient élevés. Je vous disais, il n'y a pas que l'achat, en fait. Il y a en fait toute la durée de vie du matériel où c'est également très élevé. Et donc, pour l'histoire, vers les années 90-2000, on s'est dit, voilà, avec le high-tech, on va pouvoir avoir des matériels donc meilleurs, plus performants, et qui en plus ne coûteront pas très cher à l'usage. Alors, on avait cette croyance-là, et en fait, ça coûte beaucoup plus cher à l'usage. Moi, j'ai un militaire qui, avec le recul, m'a dit, on aurait dû s'en douter, parce qu'entre une Clio et une Ferrari, on sait bien que l'entretien de la Ferrari coûte quand même beaucoup plus cher que l'entretien de la Clio. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas vu ça. Donc aujourd'hui, comme on est dans une logique de contrainte budgétaire, quels que soient les secteurs d'activité, on veut savoir combien ça va coûter dès le départ avant d'acheter le produit. Donc le prix d'achat même si c'est toujours plus cher que prévu, bon, voilà, on arrive à peu près à s'en sortir. Mais l'armée dit, voilà, moi, je veux savoir combien ça va me coûter à l'usage sur mes dizaines d'années d'usage. Assez ambitieux. L'industriel va dire, bah, je peux peut-être vous faire des calculs, mais j'ai besoin de savoir comment vous allez vous servir du matériel. Si on s'en sert, qu'on en prend soin, qu'on met bien à l'abri, ça a un certain coût. Mais les militaires, généralement, on va dans des pays très froids, dans des pays très chauds, il y a du sable. On se fait tirer dessus, on roule sur des cailloux, enfin voilà, c'est pas non plus les meilleures conditions d'emploi, donc il y a une usure qui est quand même un peu plus importante que dans le civil. Alors le jeu, c'est le ministère qui dit à l'industriel un peu ce qu'il imagine, comment il imagine se servir des matériels, donc ses hypothèses d'emploi. L'industriel, lui, dit, ben voilà, dans ce type de conditions, telle pièce, elle devrait lâcher au bout de tant de temps, telle pièce au bout de tant de temps. Pour y accéder, pour changer cette pièce-là, il faut tant d'heures. Le coût à l'heure, c'est ça. Équation fois machin plus égale temps. Voilà. Donc on a des modélisations du coût du matériel. Donc planche d'après. Là, je vais commencer par le bas. Voilà. Donc en fait, ce militaire me dit, bah, dans la vraie vie, il faut attendre une dizaine d'années avant de savoir vraiment combien ça coûte. Donc on est loin de l'idée de prévisibilité dès le départ. Hein. Voilà, parce qu'il y a toujours des aléas. Un autre qui me dit, ben en fait, voilà, ça reste quand même essentiellement du bricolage, hein, il ne faut pas rêver. Il me dit, on fait, voilà, c'est des prévisions, c'est on aimerait bien que ça se passe comme ça, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Alors oui, pour vous dire aussi, parce que j'ai fait quelques recherches pour avoir des détails, là, avec l'opération Barkhane, donc l'usure des matériels est plus que prématurée. Alors, en 2015, il y a 20% des matériels terrestres qui étaient jugés irrécupérables. Ce matériel récent qui est envoyé là-bas pour une part. Un an sur Barkhane, ça équivaut à 3 ans en France. Donc, il y a vraiment une usure accélérée là-bas. Donc, on est loin des hypothèses aussi qui étaient prévues. Entre 2014 et 2017, il y a 10 milliards d'euros d'endommagement de matériel. Donc là, en fait, on est actuellement très embêté parce qu'on utilise beaucoup plus que prévu. Le potentiel qui était calculé pour ces matériels file avec cette opération-là et on va se retrouver être assez embêté et puis en manque de matériel là pour le présent et les prochaines années. Cet industriel-là, donc, je vous l'ai mis parce que c'est quelqu'un qui est très lucide sur ce qui est capable de faire la modélisation et ses limites. C'est quelqu'un qui fait ça toute la journée. Et donc il m'explique qu'il a affaire à un client qui ne se rend pas compte que la modélisation c'est une simplification en fait. J'ai pas beaucoup de temps en fait. Hein. Donc je vous en parle pas, mais si ça vous intéresse, je vous dirai 2 mots sur la modélisation. Ça va aller trop vite. Oui, voilà. Ça je peux passer aussi. Voilà, donc, parce que je voudrais quand même arriver là et un peu après aussi. Donc, sur cette idée de maîtrise, voilà, donc je maîtrise. Pour maîtriser, bah, j'ai besoin de quantifier, de chiffrer, pour savoir, donc surtout dans cette logique de réduction des coûts. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on est passé de l'image d'un militaire qui était corvéable à merci à un militaire qui, en fait, revient cher. Et donc, c'est plus intéressant d'externaliser que de faire en interne. Donc, c'est un vrai retournement de la pensée. On est revenu un petit peu sur l'externalisation. Ce qui, là aussi, peut paraître un petit peu surprenant, c'est que forcément, quand vous sous-traitez à quelqu'un, ce quelqu'un se prend une marge. Donc, ça paraît un peu étonnant que ça revienne moins cher avec une marge que si vous le faites en interne. Mais bon. Donc, toujours dans cette idée d'avoir donc, ma grande puissance de sortie, eh bien, je vais demander aux gens, cette idée de rouage, hein, de se conformer à une partition qui est écrite pour eux. Voilà. Il faut rentrer dans le rôle. Donc, bah, je vais leur donner des règles pour leur dire quel est leur rôle. Je vais leur écrire leur script, si vous voulez. Alors, vous allez me dire, dans l'armée, des normes, c'est normal. Oui, mais il y en a en fait beaucoup plus qu'avant. C'est normal d'avoir des doctrines, par exemple, parce que vous pouvez avoir une perte de communication. Et donc, c'est bien que votre équipe avec qui vous travaillez sache ce qu'elle a à faire. Mais là, on va beaucoup plus loin. Donc, il y a une multiplication des normes. Il y a vraiment une volonté de tout standardiser. Ça se voit dans le civil aussi. Et alors, moi, je parle de standardisation, mais dans les textes, on va parler d'harmonisation aussi, beaucoup. Sauf que l'harmonisation... Pour les musiciens, quand vous avez un accord qui est harmonieux, vous jouez 3, 4, 5 notes et vous avez un joli son. Là, on n'est pas dans l'harmonie, parce qu'on n'est pas dans plusieurs notes qui sont harmoniques, on est sur une seule note. Voilà, c'est le « la » pour tout le monde. Donc moi, je trouve que parler d'harmonisation, ce n'est pas exact, on peut parler d'unification ou de standardisation. Donc, par la standardisation, certes, je gagne en efficacité. Le revers de la médaille, c'est que ça rigidifie tout, puisque chacun doit jouer son rôle dans le rouage d'ensemble. Donc là, on va y revenir un petit peu, mais ça nuit à la puissance, en réalité, de sortie, puisque vous ne pouvez pas vous adapter. Les Allemands ont dit, c'était après la Première Guerre mondiale, que les Français avaient fait une bataille de papier parce qu'ils avaient retrouvé dans les véhicules beaucoup de documents qui devaient dire comment ils devaient se conformer, etc. Voilà. Donc on a un petit peu ce risque-là d'être trop rigide et donc de manquer d'adaptabilité dans un conflit. Les autres conséquences qu'on voit aussi de cette unification, c'est qu'on va s'aligner sur le civil, en fait, au plan normatif. Donc on veut des matériels qui respectent les normes civiles. Avant, on avait le droit de demander des dérogations. Pour les véhicules, par exemple, pour qu'ils roulent sur les routes civiles, on demandait une dérogation à la DRIR, hein, voilà, pour dire, voilà, j'ai besoin de rouler là-dessus, il n'y a pas de souci, ça a fonctionné. Aujourd'hui, donc, j'ai un extrait d'entretien aussi, voilà, vous avez un ingénieur de la DEJA qui me dit, voilà, donc, en théorie, je peux toujours déroger, en théorie, j'ai le droit, mais je ne vais pas le faire. Parce que si jamais il y a un problème, on va me dire, mais alors, pourquoi tu n'as pas respecté la norme ? Là, hop, devant le juge, il n'a pas envie d'aller voir le juge. Donc, on se couvre et on respecte les normes civiles. Voilà, alors moi je me suis posé la question sur finalement pourquoi tout d'un coup on en est arrivé là. Et donc un officier qui m'explique, en fait, voilà, ce sont des normes qui existaient toujours dans le civil, je pense au droit du travail, hein, ne serait-ce que ça. Et donc je pense qu'à un moment donné, il dit, il y a quelqu'un qui a dû dire qu'il n'y avait pas de raison que les militaires ne soient pas donc, protégés en termes de droit du travail, au même titre que n'importe quel salarié, pour des nuisances connues. Voilà. Donc c'est le même régime pour tout le monde. Ce qui fait qu'en entraînement, ils ont un peu plus de sécurité que ce qu'ils avaient avant, puisqu'il faut appliquer exactement les mêmes normes de sécurité. Sur le véhicule blindé de combat d'infanterie, quand vous grimpez dessus, vous êtes un peu plus d'un mètre vingt du sol, et dans le droit du travail, il est dit, si vous êtes au-dessus d'un mètre vingt du sol, vous devez être attaché. Bon, pour grimper dans leur véhicule, dans leur char, ils ne vont pas non plus s'attacher. Donc la solution qui a été trouvée là, c'est de mettre un système antidérapant sur le dessus. Voilà. Mais on arrive à certaines aberrations comme ça. De même que si c'est le même droit du travail, c'est 35 heures pour tout le monde, en temps de guerre, on ne va pas dire « pousse, j'ai fait mes 35 heures, on se retrouve au lundi matin, 8 heures, au revoir voilà. ». Ça ne peut pas passer non plus. Mais il y a cette idée que ce sont des travailleurs exactement comme les autres. Je revenais un tout petit peu sur la planche d'avant. Voilà, donc j'ai un alignement sur le civil. Plus j'ai de normes, plus je vais dévier à la norme. Et donc j'ai de plus en plus de risques de procès juridiques. D'où la crainte et le fait qu'on se couvre. Et que dans les matériels, c'est l'exemple de la 400M, l'avion de transport, mais je n'ai peut-être pas le temps de le dire. Aussi quand même. Donc sur la 400M, il faut, on a voulu qu'il respecte la réglementation pour les avions civils. Et donc, pour les avions civils, il faut une certaine sécurité pour les passagers. Sauf que dans la 400M, les passagers, ils sautent en vol. Voilà. Donc, dans le civil, ça ne marche pas. Mais là, c'est des parachutistes, ils sont formés pour. Voilà. Donc, on arrive à certains conflits comme ça, une manière de fonctionner. Je vais passer là-dessus. Voilà. Donc, on l'a vu. Voilà. Et donc, donc tout ça, c'est, je veux me prémunir aussi face à l'imprédictibilité de la guerre. Donc, je vais prendre tous les cas de figure possibles. Et donc, je vais prévoir tous les kits possibles, ce qui complique un petit peu le matériel. Mais là, je mets un petit peu l'accent sur la question du rapport à la vie. C'est que du coup, il y a une certaine peur de prendre des risques. Voilà, donc pour la conception, c'est ce que je vous ai dit, du coup je vais rajouter du respect normatif, mais est-ce que je vais demander à mes hommes d'aller faire quelques mètres de plus alors que d'habitude j'ai un appui et là j'en ai pas ? Donc du coup je fais quoi ? J'y vais pas, je reste là, on y va quand même. Donc là pour donner un élément de réponse, moi je dirais que ça dépend de l'enjeu aussi qui est là et puis des éléments d'information dont dispose le chef pour y aller ou pas. Mais certains m'ont dit que certains chefs, sur l'état d'opération, ils gardent des traces, des ordres qu'ils reçoivent pour se couvrir au cas où on leur dirait « mais comment ça se fait ? T'as pris tel risque ?» Voilà. Donc vous avez donc toute une traçabilité sur un modèle de protection juridique. Et le positionnement de l'État, à mon avis, il est un petit peu délicat parce que donc, d'un côté, il est là pour protéger la vie de ses citoyens et de l'autre, à certains d'entre eux, il dit « tiens, vas-y, va risquer ta vie, c'est pour le bien général, voilà. C'est pour l'intérêt public. » Donc là, c'est un petit peu délicat, donc il va faire le maximum pour assurer la protection, donc acheter des drones, des systèmes de renseignement, des capteurs sur les satellites, des tenues particulières, multiplier les appuis aériens, etc., etc. Donc il y a davantage de moyens pour réaliser la même mission qu'avant. coup, je regarde parce que qu'est-ce que je vais vous dire. Je vais peut-être pas parler de cette partie-là, c'est pas grave. Donc, je vais rester sur cette rationalité-là, qui est la rationalité de type gestionnaire. Hein, je l'ai pas dit avant parce que je suis passée très très vite, mais sur l'idée de mesurer, de quantifier, d'optimiser. Là aussi, il y a eu des mesures d'optimisation de la charge. Donc réduction du personnel de la DGA, donc on est dans ce type de rationalité-là, et elle se veut la seule rationalité qui existe. Donc on a du mal à penser un adversaire qui ne raisonne pas en fait, comme nous. Donc, pour vous donner un petit exemple peut-être d'une intelligence un peu différente, justement donc sur les IED, je reviens là-dessus, c'est une histoire qui m'a été rapportée aussi. Donc en Afghanistan, il s'était aperçu que, voilà, pour mettre un piège, si vous voulez, donc on fait un trou dans le sol. Ce qui fait que le matin, quand ils sortaient de leur base, ils voyaient des fois des trous dans le sol, donc ils envoyaient les démineurs en disant, voilà, je pense que là, il y a quand même quelque chose qui s'est produit, donc allez désamorcer la mine. Et un matin, ils se sont réveillés, il y avait des trous partout. Voilà, partout, partout. Les Afghans n'étaient pas idiots, donc ils avaient bien vu qu'ils laissaient des traces dans le sol, donc ils ont multiplié les trous. Et comme ça, bah, ça prend un certain temps pour examiner l'ensemble des trous et voir là où il y a vraiment des bombes ou pas. Donc on a des fois justement des petits décalages comme ça qui se produisent entre l'adversaire et soi. Je pourrais donner d'autres exemples sur la manière dont ça s'est passé entre les forces de l'OTAN et Milosevic, par exemple, en Yougoslavie, où là on était vraiment sur le même type de logique, et une logique d'État face à un chef d'État. Mais pour l'Irak, par exemple, voilà, vous emportez la bataille, donc le chef d'État dit « bon, d'accord, c'est bon, je cède », mais le peuple, il n'a pas la même logique, lui. Donc lui, il va continuer le combat. Donc en fait, vous pensez que vous avez gagné la guerre, mais en fait, elle n'est pas finie. Et là, vous en avez pour des années et des années. Dans cette logique-là, donc, qui quantifie, l'exemple que donne Hannah Arendt, c'est celle sur la guerre du Vietnam, où les États-Unis se sont dit « je vais quantifier pour savoir qui est le vainqueur ». C'est l'ancienne méthode, hein, le champ de bataille, je compte combien il y a de morts, et puis celui qui reste, il a gagné. Donc on est parti dans cette logique-là de quantification des morts, sauf qu'elle explique qu'en fait, en face, on avait des gens qui n'étaient pas sur cette logique-là. Eux, les enjeux étaient beaucoup plus élevés en fait, pour eux que pour les Américains. Donc il y avait les forces morales, vous voulez, pour parler en langage militaire, qui étaient très importantes. Et donc même s'il y avait des morts, ce n'est pas grave. On continue, on ne va pas lâcher l'affaire. Donc elle dit, en fait, les Américains n'étaient pas sur le même plan, en fait, ils ont mal perçu cette dimension-là chez l'adversaire. Donc voilà, je peux avoir une vision faussée de mon ennemi. Et puis donc cette rationalité instrumentale en gagner donc la grande puissance de sortie qui va me permettre de l'emporter. Finalement, si on la pousse au bout, c'est un peu l'arme nucléaire. Hein. Là, c'est la puissance ultime. Vous détruisez tout. Voilà, effectivement, voilà, on dit hop, je suis le dernier sur le terrain, j'ai gagné. En fait, vous avez juste, vous n'avez pas résolu votre problème. Vous avez supprimé votre problème. C'est quand même un petit peu différent. Et l'expérience aussi a montré que ce n'est pas parce qu'on détruit un maximum d'adversaires qu'on va emporter la bataille finale. En fait, on peut même se mettre à dos encore plus les gens en face parce qu'on est, trop de carnage, si vous voulez. Donc, du coup, ce n'est pas bon. On ne sert pas le politique. L'armée donc, est un moyen d'atteindre des fins qui relèvent du politique. Mais il ne faut pas oublier ça. Il y a moi, un militaire qui me dit, de toutes les façons, la guerre, elle se termine quand les deux personnes arrivent à se réconcilier. En fait, c'est ça le but. Donc, ce n'est pas détruire un maximum. On n'est pas, là aussi, sur le même plan. Ça ne fonctionne pas. Je passe également vite, mais avec ce type de puissance-là, donc on déploie avec ce type de rationalité-là, donc au final, on a donc une faible inscription spatiale, puisque je vais protéger au maximum la vie des gens, donc je ne vais pas les mettre sur le terrain. Mais on se rend compte que si on ne les met pas sur le terrain, en fait, ça ne marche pas. Donc là, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Sur le temps qui est déréalisé, on va être en temps réel, voilà, toute l'information en temps réel, et il y a un aviateur qui me dit, l'avion arrive effectivement très vite, mais le temps qu'on prenne la décision, il tourne pendant 20 minutes. Donc là aussi, quel est l'intérêt d'être vraiment en temps réel et en temps très vite? Il y a quand même un temps de réflexion qui est important. Et ça, je l'ai lu chez d'autres militaires aussi qui m'ont dit, mais c'est bien beau d'avoir l'information, mais à un moment donné, il faut quand même se poser, prendre un peu 5 minutes, examiner les éléments. Il y a un temps de la réflexion qui est là. On ne peut pas aller toujours très très vite. Un autre exemple sur le temps déréalisé qui est sur un autre registre, le temps nécessaire pour l'entraînement. Quand on regarde un petit peu avec le recul, on voit que le nombre d'heures, que ce soit pour les aviateurs, pilotes de chars, ce que vous voulez, en fait, il diminue d'une année sur l'autre parce qu'on est dans une telle organisation, je vais dire ça comme ça, qu'en fait, on ne tient pas le rythme. Et donc, comme on n'atteint pas l'objectif, la stratégie, c'est de baisser l'objectif Comme ça, on se dit, j'ai une chance de l'atteindre. Mais on ne l'atteint toujours pas. Alors, on va baisser le nombre d'heures. On passe de 192, 186, 180. Et on ne l'atteint en fait toujours pas. Donc, actuellement, on en est là. Mon sentiment, c'est qu'on a effectivement une bonne puissance de sortie, mais qu'on est capable de, on n'est pas capable de tenir dans la durée. Voilà. Et puis, donc, on n'est pas non plus forcément capable de s'adapter parce qu'on est justement un petit peu trop rigide dans la manière de fonctionner. Je crois qu'il reste juste une planche ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'était ma dernière. Du coup, alors voilà, on pourra aller donc rapidement. Je vous avais dit, plus on va vers la fin, plus ça va aller vite. On est donc dans la force. Voilà, donc ma grande puissance de sortie. Et j'ai le sentiment qu'on a négligé un peu cette dimension-là qui permet d'emporter la victoire aussi, qui est la ruse. J'ai un collègue qui a fait sa thèse sur la ruse, justement. Et ces premières pages de présentation, en fait, c'est ma conclusion de thèse. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en miroir entre son approche et la mienne. Moi, je plaide pour qu'on redonne plus de place à la ruse et un peu moins à la force et qu'on retrouve un équilibre entre les deux. La ruse, c'est ce qui permet donc d'utiliser habilement les circonstances à son profit. Ça rejoint la planche un petit peu d'avant, donc ce dont je ne vous ai pas parlé, mais sur la manière dont la Chine accueille l'imprévu. Donc là, je m'appuie sur François Julien qui dit l'utilisation habile de la disposition des événements. Donc savoir se servir de ce qui se présente là et pas forcément attendre qu'on se conforme à des plans. Donc là, ça remettrait un petit peu d'adaptabilité sans avoir besoin de recourir à mon matériel, mon socle commun, mes kits, tous mes plans doctrinaux. Il faut que ça colle à ma doctrine. Voilà, donc on n'est plus dans cette place dans le rouage. On laisse en fait plus de place aux personnes. Mais ça veut dire ne pas aller trop précisément dans le détail, aussi bien donc sur le plan doctrinal qu'en termes de conception des matériels, en fait. Dans l'étude de cas que j'ai faite sur des matériels, donc là je vous en parle pas parce que ça serait encore beaucoup plus long, vous avez un matériel qui est en fait très adaptable. Vous avez donc mon système de missile pour fantassin débarqué. Vous avez un écran qui est un écran d'optique extrêmement classique, voilà, par la fenêtre c'est pareil. Vous avez donc une optique de base, pas quelque chose d'électronique. Et puis vous avez un fil qui relie votre poste de tir à votre missile, donc vous le guidez exactement là où vous voulez. Extrêmement adaptable. Il a été conçu donc contre les chars. Dans sa vie, il a à peu près tout fait sauf des chars, en fait. Hein, voilà. Donc des bâtiments, des hélicoptères, des personnes, tout ce que vous voulez, mais assez peu des chars au final. Donc vraiment, un type de polyvalence. Il n'est pas du tout sur socle commun plus kit. Le système qu'il a remplacé en France, lui, il est sur un système de détection infrarouge. Donc s'il n'y a pas de chaleur en face, il ne va rien voir. Ce qui est effectivement le cas. J'étais dans un centre d'essai, donc c'est pour la formation des fantassins que je suivais. On était le matin, peut-être vers les 10 heures du matin. Il y avait donc plusieurs véhicules qui étaient là, et celui sur lequel ils devaient tirer n'apparaissait pas sur l'écran électronique du poste de tir. Voilà. Il n'existait tout simplement pas, en fait, pour le poste de tir. Ça peut être le cas quand vous avez donc très peu de décalage de température. Donc, lever du soleil, soleil ou le coucher, vous avez peu d'écart en termes de degrés, donc l'appareil ne voit pas très bien. En plus, bon, là, c'était un véhicule qui était à l'arrêt, il n'y avait pas le moteur qui chauffait, donc on voilà, ne peut pas voir le moteur. Et c'est un matériel de type américain, et on m'a rapporté que quand les Américains font la démonstration de ce poste de tir-là, ils viennent avec un petit réchaud, voilà, pour mettre près du véhicule, pour qu'il chauffe bien, pour que l'appareil puisse le voir après. Donc là, ce matin-là, il n'existait pas, et le tireur a dû tirer sur un autre véhicule que le système voyait. Donc il y a même certaines limites d'adaptabilité avec du matériel moderne. Donc laisser effectivement un peu plus de place à la puissance créatrice de l'homme, donc l'art des stratagèmes, en fait l'adaptabilité peut-être un peu plus chez l'homme et un peu moins chez le matériel. Voilà, donc là je vous ai parlé d'André Gorz ici parce que je trouvais que ce qu'il disait sur la complexité, pas du tout dans un domaine militaire, s'appliquait pourtant assez bien, moi, à mon domaine militaire, donc plus d'autonomie individuelle, hein, ça revient à ce qu'on disait, donc un savoir qui n'est pas parcellisé, c'est-à-dire des objets beaucoup plus simples. Là, avec le problème de ces objets-là, c'est qu'on ne sait pas forcément comment ça marche, et puis surtout, on ne peut pas aller les réparer. Les militaires, un matériel, ça tombe en panne. Voilà. Dans le militaire, c'est assez fréquent qu'il y ait des pannes, puisque vu les conditions d'usage, ça arrive. Donc les militaires aiment bien pouvoir ouvrir, regarder ce qui se passe, bricoler quelque chose. Donc on m'a dit que les chewing-gums, ça marchait très bien, Les bas aussi, alors je ne sais pas où ils trouvaient des bas, mais en tout cas à l'époque, ça pouvait fonctionner pour réparer des choses. Donc ils ont cette habitude-là de bricoler un truc juste pour sortir de la zone dangereuse, au minimum ça, se mettre en sécurité, puis après on voit. Et là, en fait, c'est comme les objets du civil, hein, votre ordinateur, votre voiture, vous pouvez ouvrir, vous n'allez pas voir grand-chose. Surtout, vous n'avez pas le droit de modifier des choses parce que sinon, vous perdez la garantie. Là, c'est un peu le même type de principe aussi. Donc, ils n'ont plus cette capacité de pouvoir bricoler quelque chose, de rentrer dans le système. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et ça laissera un peu plus de temps, du coup, si vous êtes... Non, après, il n'y a plus rien. Voilà, d'accord. C'est juste s'il y a besoin, j'ai quelques planches de plus, mais normalement ça s'arrête là. Merci pour les planches.